C'est tout pour l'actualité. Belle matinée.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'Heure Flamande, préparée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, nous allons consacrer ce numéro, non pas à un de ces grands de ce monde, mais plutôt à la vie d'un ouvrier flamand, Pierre de Jeter. Alors ce nom, sans doute, pour quelques-uns d'entre vous, vous interpelle. Alors pour bien comprendre, bien sûr, la vie de cet ouvrier, il faut remettre les choses en place, bien placer le décor et se garder, bien entendu, de juger ce qui s'est passé avec les yeux d'aujourd'hui, avec nos valeurs d'aujourd'hui. Le contexte dans lequel a vécu Pierre de Jeter était bien sûr très différent de ce jour.
Lange vapper is mannen nom, en slecht is mijn reputatie. Ja, ik heb een kwaaie fam, ik sta niet in de gras. Dat is de schuld van mijn stil ook kom, dat zulde me vragen. Wat ik ook doen, arren of jong, ik moet de mensen plagen. Ik heb al onder de jaren lang de schrik in daar te geblazen. Van signoren uit straat en gang, van knechten en van bozen. Maar dat is nou niet meer van doen, de mensen plagen hun eigen. Graven dat straf, hun eigen graf, en ik kan beter zwagen. Overleest op mijn schoenen dat je mekjes dan belt gekregen. Maar ook hier en als ik het zag, ik zat ermee verlegen. Tegen het steen stopt er verworren een boer met slechte manieren. Als je bedenkt dat hij monument een kwelgeest moet verieren. Het ondankbaar signoren bloed, hij tot zijn schande vergeten. Daarmee zult aan zijn narf goed, zo maar niet wordt gesmeten. Al dat verdoen, het is niet meer schoon, trekt er maar rekening strijpen. Ik zijn vereerst, een boze geest, dat hem ze niet begrijpen. Maar het uur van de straf breekt aan, dat geef een koe op een blokje. Ik zal weer om het plagen gaan en niet meer op mijn stokje. Want die het kwaad niet wilt verstaan, kan het goed toch ook niet begrijpen. Dus in het weer draai, geen mij de laai, kom in na tienen apen. En dat we zo in schijnt, zal lang je wapper zijn.
Vous venez d'écouter Vanesse Van de Velde, vous interprétez le chant de la longue bascule, du poids bascule. Vous êtes à l'écoute de Radio Plus et l'émission L'Heure Flamande.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer la vie d'un ouvrier flamand, Pierre de Jeter. Alors, Pierre de Jeter est né à Gand le 8 octobre 1848. Il est issu d'une famille d'ouvriers, ces ouvriers qui travaillaient dans une usine textile, donc à Gand. Gand qui avait connu une grande prospérité. Mais au moment où va naître Pierre de Jeter, eh bien, malheureusement, la ville de Gand n'est plus aussi prospère qu'elle l'a été. Alors, que s'est-il passé? Alors, il faut, pour bien comprendre, revenir un petit peu en arrière. Alors, sachant que en 1815, eh bien, c'est la chute de l'Empire napoléonien. Alors, les puissances européennes de l'époque, évidemment, vont redessiner un petit peu la carte de l'Europe. Et les acteurs principaux sont bien sûr l'Angleterre, l'Autriche à l'époque, qui est encore une puissance importante, et la Russie en particulier, sont à la manœuvre. Alors, il s'agit bien sûr pour eux d'affaiblir cette France belliqueuse qui a semé la guerre pendant plus de 20 ans à travers toute l'Europe. Je ne vais pas citer toutes les batailles que les armées napoléoniennes ont bien sûr menées. Et ils ont mis bien sûr l'Europe à feu et à sang. Alors un grand besoin de paix. Et aussi donc eh bien l'Angleterre veut bien sûr affaiblir ce royaume de France. Il paraît même à un moment qu'il était question que les départements du Nord et du Pas-de-Calais soient réunis à un ensemble de ce qu'on appelle alors les Pays-Bas. Bref, l'idée était de reconstituer grosso modo les fameuses 17 provinces. L'idée fut abandonnée. Bon, j'ignore tout à fait. Bon, j'étais pas dans le secret, bien sûr, des négociations. C'est une chose à étudier. Toujours est-il, c'est qu'il a été créé donc ce qu'on appelle le Royaume-Uni des Pays-Bas, qui regroupe donc les Pays-Bas actuels et la Belgique, mais la Belgique n'existe pas encore, il faut le savoir. Donc c'est le territoire actuel de la Belgique. C'est un grand ensemble donc qui s'appelle le Royaume-Uni, qui est dirigé par un roi très dynamique, c'est Willem Ier. Ce roi, bien sûr, il est bien conscient que son territoire est partagé entre deux peuples de langues différentes, le néerlandais et le français. Il n'ignore donc pas les difficultés et c'est un roi très avisé puisque, loin de vouloir mener une politique jacobine, eh bien, il prend bien soin d'équilibrer les investissements aussi bien industriels que universitaires. Et c'est ainsi qu'il va créer plusieurs universités réparties dans l'ensemble du royaume, dont la ville de Gand. Et d'ailleurs, cette université va très vite avoir une grande réputation, elle deviendra même très prestigieuse. William Ier lance d'ailleurs le creusement du canal Gand-Terneuzen en 1824. C'est un chantier qui va durer 3 ans. La ville de Gand, alors, elle connaît une véritable dynamique. C'est une ville où il ne manque pas de travail. Les usines sont innombrables. Et donc, évidemment, tout ça fait que la ville de Gand est riche et prospère. Et elle attire, bien sûr, de nombreuses personnes pour venir y travailler. Mais voilà, c'est que la France et l'Angleterre commencent à être un peu agacés par ce royaume uni des Pays-Bas qui est de plus en plus dynamique, qui fait de l'ombre aux grands ports aussi bien français que anglais, et Londres en particulier, si bien que, évidemment, il y a des grandes manœuvres qui vont se mettre en place. L'Angleterre, d'une part, veut affaiblir ce nouveau royaume, et puis la France, elle n'a jamais vraiment abandonné l'idée de mettre sa frontière plus au nord, le long du Rhin, bien entendu. Alors l'Angleterre va bien sûr pousser les gens, les manifestants, les rebelles de la future Belgique, francophone essentiellement. Et d'ailleurs, même la France va plus ou moins soudoyer la hiérarchie catholique pour essayer de tout simplement créer ce pays de tampon de façon à affaiblir donc le Royaume-Uni des Pays-Bas. Alors bien sûr, le roi Willem Ier va d'abord chercher bien sûr à maintenir son royaume avec une répression mais qui ne sera pas si sévère que ça, puisque ce roi, il a aussi le souci de ne pas verser le sang de son peuple, et donc il décide de répondre à la demande de ces rebelles, et c'est ainsi que le royaume de Belgique va être créé en 1830. Mais voilà, bien sûr, Willem ne va pas rester les bras croisés. Ce qu'il va faire, eh bien, il va tout simplement bloquer l'accès à la mer, et le port de Gand va plonger dans un profond marasme. Et évidemment, parlons de choc, l'ensemble des entreprises, bien une après les autres, vont connaître de graves crises économiques.
Zonder doel, zonder haast, zonder jou. Hopeloos. Zelfs de lucht hangt vol mist, de hemel is triest en in rouw. Eindeloos. Duurt de tijd die ik slijt, langs de weg van de eenzaamheid. Waar ik sta, eender waar. Hopeloos. Als ik 's morgens ontwaak en ik merk dat ontbijt me niets maakt. Hopeloos. Ziet mijn toekomst eruit in dit huis zonder hart, zonder ziel. Bent gegaan en mij hopeloos achterliet. Hopeloos loop ik hier door de straat zonder doel, zonder haast, zonder jou. En in rouw, eindeloos, duurt de tijd die ik slijt langs de weg van mijn eenzaamheid. Want de zon in mijn bestaan is ondergegaan, de dag dat je weg bent gegaan en mij hopeloos. En mij hopeloos achterliet.
Vous interprétez Hopeloos, Désespoir. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et nous évoquons aujourd'hui la vie d'un ouvrier flamand gantois, Pierre de Jeter. Et la ville de Gand, après donc bien sûr la fermeture des accès à la mer, bien connaît une profonde récession. Et c'est dans ce contexte que naît Pierre de Jeter, ce fameux 8 octobre 1848. Alors évidemment, les caisses de secours, il n'existe pas beaucoup à l'époque. C'est la grande misère. Et on commence à avoir des mouvements de population qui essaient bien sûr de trouver du travail, de quoi vivre. Et bien sûr, il y a tout proche deux zones qui les attirent en particulier et pour cause. Nous allons d'ailleurs écouter ici un extrait d'un livre que vous avez peut-être connu, enfin les plus anciens, le fameux Tour de France par deux enfants. Alors c'est un livre un peu particulier, mais qui donne bien ici l'image qu'avait alors notre région Nord-Pas-de-Calais. Écoutons ce texte.
Le lendemain, nos amis se séparèrent en se promettant de se revoir bientôt. Guillaume allait retrouver sa femme, Franz et ses neveux se dirigeaient vers Falsbourg pour y terminer leurs affaires. Lorsque le bateau quitta Dunkerque pour naviguer sur le canal, Julien, debout sur le pont, observait le pays avec attention. « Regarde bien, Julien, lui dit l'oncle Franz, qui était tout près, enfonçant dans l'eau sa longue perche. Le département du Nord où nous voici vaut la peine que tu l'admires. C'est après le département de la Seine le plus peuplé de France, et l'agriculture comme l'industrie y est prospère. En effet, tout le long des bords du canal, souvent noirci par la poussière du charbon de terre, on voyait se déployer de grandes plaines où travaillaient sans relâche les cultivateurs affairés. On était à la fin de janvier et chacun préparait la terre à recevoir les semences de printemps. « Dans deux mois, ajouta l'oncle Franz, ce ne sera partout qu'un immense tapis vert. Ici du chanvre et du lin, dont on fera les belles toiles du Nord, ou les dentelles de Valenciennes et de Douai. Là, le colza, la navette et l'œillette pour les huiles, le houblon pour la bière, les betteraves pour les raffineries de sucre et pour la nourriture des bestiaux, enfin les céréales de toutes sortes, car ici, il n'y a jamais un mètre de terrain inoccupé. « Pourquoi ne voit-on pas de vaches ici dans les champs ?» observa Julien. « C'est parce qu'on les nourrit à l'étable pour la plupart, ce qui n'empêche pas les vaches flamandes d'être une des plus belles races françaises. Elles sont grandes et donnent beaucoup de lait. Les moutons flamands sont aussi renommés. Avec leur laine, on fait les belles étoffes qui se vendent à Roubaix et à Tourcoing. » « Et toutes ces grandes cheminées, mon oncle, dit Julien. Qu'est-ce donc ? » ?»« Ce sont les cheminées des usines de toutes sortes. Raffineries de sucre, distilleries d'eau-de-vie, fabriques d'amidon. Bientôt, nous verrons les moulins à huile et à farine. Plus tard, nous rencontrerons des puits de mine. Les mines d'Anzin et de Valenciennes produisent à elles seules le quart de toute la houille retirée du sol français. « Oh, oh !» dit le petit Julien. « Je suis bien content de connaître la Flandre. Je vois que le nord de la France n'en est pas la partie la moins bonne. » Bientôt, on arriva à Lille, la cinquième ville de France, qui est en même temps une place forte de premier ordre, tout entourée de remparts et de bastions, et qui soutint plusieurs sièges héroïques. Julien fut envoyé faire quelques commissions à travers l'île. Il revint émerveillé du mouvement qu'il avait vu partout et du bruit des grandes filatures dont on entendait en passant siffler les machines à vapeur. Donc c'est un extrait du livre « Le Tour de France par deux enfants », un chapitre « L'île et les filatures » et ouvrage écrit par G. Bruno.
Et donc cet extrait que vous venez d'entendre montre bien le dynamisme alors du nord de la France et de la Wallonie d'ailleurs, et la ville de Roubaix n'est-elle pas surnommée la ville aux mille cheminées? Donc il y avait une activité énorme et évidemment cela attirait bien sûr beaucoup de Flamands du nord qui eux vivaient la misère, sans emploi, de la récession était violente depuis que malheureusement avec la création de la Belgique ça n'a pas été une bonne opération économique au départ. Et donc, voilà, ces populations flamandes qui vont partir de leur ville, de leur village, pour aller offrir leurs bras aux usines, aussi bien wallonnes, puisque c'est le grand bassin aussi de la sidérurgie, du textile. Une ville comme Verviers, c'est une cousine quasiment de la ville de Roubaix. Et donc, ces gens vont partir, et ainsi les parents de Pierre de Jeter vont décider eux aussi tout simplement de partir, et eux, ils arrivent à Lille en 1855. Alors, le jeune DGTR, eh bien, il va pas traîner longtemps il va pas user ses fonds de culotte sur les bancs de l'école, puisque dès l'âge de 7 ans, eh bien, il va travailler en usine comme menuisier. Un frère naîtra, Adolphe, le 25 janvier 1859. On ne peut pas évoquer d'ailleurs Pierre de Jeter sans parler de ce frère, comme on le verra un peu plus loin dans cette émission. Il ira travailler ensuite à Fifcaille, dès ses 7 ans, comme son frère aîné va le rejoindre aussi. Et c'est ainsi que Pierre de Jeter va travailler comme câbleur dans l'industrie ferroviaire. Il y a une chose qui, bien sûr, si certes, il doit travailler pour gagner sa vie, hein, puisque malheureusement, il n'y a pas de bourse, il n'y a rien. Néanmoins, Pierre, il est très attiré, d'ailleurs comme son frère, par la musique. Et c'est ainsi que, dès l'âge de 16 ans, Pierre s'inscrit à l'Académie de musique. Et naturellement, il essuie les cours du soir. Son frère Adolphe va le suivre, et ainsi ils vont donc s'adonner beaucoup à leur passion, la musique. Si les deux frères sont doués pour la musique, eh bien, ils ne peuvent pas, bien sûr, ne pas travailler, donc ils travaillent dur à l'usine de Fifcaille, avec des journées de 10 à 12 heures. C'est que, eh bien, à l'époque, évidemment, le patronat profite de cette main-d'œuvre docile et bon marché. À Fifcaille, pour vous situer un petit peu l'ordre de grandeur, c'est quand même une entreprise qui faisait travailler plus de 3000 ouvriers. Donc c'était une véritable ville dans la ville, à Lille. Les deux frères, eh bien, ils vont adhérer à une union musicale, ce qui s'appelle la Lyre des Travailleurs. Cette union a son siège, bien sûr, dans un de ses nombreux estaminets où, comme même encore aujourd'hui, eh bien, on refait le monde. On s'adonne, bien sûr, au chant, à la musique. Et puis, on parle aussi, bien sûr, beaucoup de conditions de travail, de la dureté de la vie. Et c'est ainsi que les deux frères s'engagent dans l'action et ils vont adhérer au Parti ouvrier français. C'est un jeune mouvement socialiste qui a été créé en 1882 et qui est animé en particulier par Gustave Delory. Gustave Delory qui est lui aussi ouvrier à Fifcaille et qui va plus tard devenir le maire de Lille.
Het is niet waar dat ergens anders de bergen hoger, de vlakten vlakker en de rivieren trager zijn. Het is niet waar. Het is niet waar dat ergens anders de huizen hoger, de regens zachter en alle dalen dieper zijn. Het is niet waar. Echt waar is alleen. Je wil weer naar huis, een straat, een café, een vrouw, je bent thuis. Echt waar is alleen jouw huis, dat staat hier, al stinkt dan de grijze, de trage rivier. Thuis is hier, thuis is hier. Het is niet waar. Dat ergens anders de sterren feller, de zon veel warmer, de maan 's nachts zoveel witter schijnt. Het is niet waar. Het is niet waar dat ergens anders de hemel blauwer, de winter kouder, het gras van mij er groener schijnt. Het is niet waar. Echt waar is alleen. Je wil weer naar huis, een straat, een café, een vrouw, je bent thuis. Echt waar is alleen jouw huis, dat staat hier, al stinkt dan de grijze, de trage rivier. Thuis is hier, thuis is hier. Het is niet waar. Dat ergens anders de mannen sterker, de vrouwen zachter en kinderen zoveel liever zijn. Het is niet waar. Het is niet waar dat ergens anders de waarheid echter, de leugens slechter en vrienden zoveel hechter zijn. Het is niet waar. Echt waar is alleen je wil weer naar huis, een straat, een café, een vrouw, je bent thuis. Echt waar is alleen jouw huis, dat staat hier, al stinkt dan de grijze, de trage rivier. Thuis is hier, thuis is hier.
Milkols, vous interprétez Teus, ma maison n'est pas loin, chez moi. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande sur Radio Plus.
Et nous évoquons donc aujourd'hui la vie d'un ouvrier flamand, Pierre de Jeter. Alors Pierre de Jeter, qui travaille donc dans la grande usine de Fivecaï, eh bien évidemment, comme beaucoup de ses compatriotes, il souffre de, eh ben, des abus du patronat qui exploite cette population docile, qui peu regardante sur les salaires aussi, puisqu'ils ont quitté une misère et ils veulent plus la reconnaître, bien sûr. Mais néanmoins, Pierre de Jeter, eh bien, il a le souci de la justice avec son frère. Il milite, bien sûr, pour essayer d'apporter un peu de justice. Et naturellement, les patrons, eh bien, eux, à la moindre mouvement de grève, ces grèves souvent qui sont spontanées, qui sont un véritable cri de colère, eh bien, les patrons n'hésitent pas à faire appel aux forces de l'ordre et même à l'armée. Alors écoutons ce petit extrait de texte qui vous donne cette ambiance justement de quand les patrons font appel à l'armée pour réprimer les ouvriers.
En rang serré, régulier, ininterrompu, des hommes à cheval, drapés de grands manteaux noirs, passaient. Du fond du boulevard de Paris, on les devinait qui descendaient sur la ville. Ils formaient dans la nuit comme une masse continue. Ils allaient, le buste penché en avant, botte à botte, en silence. Les casques laissaient les visages dans l'ombre. Le martèlement confus des sabots des chevaux formait à cette scène comme un sourd et triste accompagnement. Parfois, on percevait un rire vite éteint. La garde mobile arrivé à Roubaix. Déjà, répéta Jacques, singulièrement, lui revenait en mémoire l'arrivée des Allemands à Roubaix en 1914. Un envahissement semblable d'hommes casqués, bottés, cachant des armes sous de grands manteaux.
Et je ne peux que vous inviter d'ailleurs à relire un livre de Maxence van der Merch, Invasion 14, qui relate justement cette période sombre d'occupation des villes de Lille, Roubaix, Tourcoing, donc pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, comme vous venez de l'entendre, eh bien, évidemment, le patronat, lui, n'hésite pas à faire appel à l'armée pour réprimer toute tentative de révolte. Un autre livre, d'ailleurs, du Maxence van der Merch, que là aussi je vous invite à lire ou relire, Quand les sirènes se taisent, exprime très bien l'ambiance qui pouvait exister alors dans ces mouvements de grève et qu'a vécu naturellement Pierre et Adolphe de Jeter.
Voici un extrait dans Quand les sirènes se taisent. Dès que la grève fut déclarée, il s'ingénia à trouver le moyen d'éluder ses conséquences et même, si possible, d'en profiter. Et il les trouva. Car il avait l'imagination féconde. Il embaucha tous ceux qui voulurent travailler, et leur faisant faire ce qu'on appelle double équipe, il les tint devant leur métier, de 4 heures du matin à 9 heures du soir, avec une seule heure de répit à midi, soit 16 heures par jour et 96 heures par semaine. Il leur payait un salaire de famine et leur retenait encore 50%, sous prétexte qu'il fallait les nourrir et payer les gardes mobiles. Il se justifiait en disant « Je ne force personne ». Cet effort pour le pain quotidien, des femmes comme des hommes le fournirent durant tout le temps des grèves. Il fallait arriver à l'usine avant le premier fil de clarté de l'aube pour éviter l'implacable surveillance des piquets de grève. Il fallait se dévêtir tout de suite, les hommes nus jusqu'à la ceinture, les femmes en chemise, et se mettre au travail, vite dans la chaleur massive de l'usine où des gens avaient couché, où le cambouis suintait des machines avec des senteurs puantes, où la laine imprégnait l'air d'une odeur de sueur et de bétail. Les patrons étaient sur votre dos, les commandes pressaient, et surtout, plus jamais on n'aurait à aussi bon compte une main-d'œuvre aussi soumise. Marchez, marchez, et l'on marchait. Et quand une femme défaillait, on la portait dehors quelques minutes, et elle revenait bien vite, blafarde et tremblante, dominant la syncope pour ne pas perdre un sou de 73 francs qui constituait son maigre salaire. À midi, arrêt d'une heure, on allait manger dans un réfectoire le dîner qu'offrait l'usine. Naturellement, de ce bénéfice, tout le monde se hâtait de profiter. Personne ne retournait chez soi. On avait là du bon manger, un ratat de soldat, copieux, avec une grosse tranche de jambon. Chacun redemandait du ratat deux ou trois fois par économie pour n'avoir plus faim tout le reste de la journée. D'ailleurs, personne n'eût osé sortir à midi. Toujours les piquets de grève. À une heure, travail encore, trépidant, hâtif, dans la bousculade des patrons et des directeurs. On n'arrêtait ni pour goûter, ni pour souper. On en avait ainsi jusqu'à 9 heures du soir. Les bras s'engourdissaient. L'être n'était plus qu'une mécanique gesticulante dont l'âme dormait dans un somnambulisme douloureux, tandis que le corps se démenait en automate. On finissait par s'étonner quand 9 heures sonnaient. Pour un peu, on aurait crié « Déjà !» Il semblait que travailler devint pour l'organisme une fonction naturelle comme de respirer. On se rhabillait les reins brisés, les bras morts. À travers le labyrinthe de l'énorme peignage, M. Laforge guidait ce bétail, le faisait sortir chaque jour par une nouvelle issue. On filait dans la nuit, rasant les murs, poursuivis encore quelquefois par une meute de grévistes qu'il fallait dépister. Et l'on se couchait à 10 heures peut-être pour dormir 5 heures et repartir. Certains même ne rentraient plus chez eux. Le soir, M. Laforge avait fait installer des paillasses dans un coin de l'usine. Beaucoup de femmes dormaient là, elles n'osaient plus sortir, affolées à l'idée d'être pourchassées par ces enragés grévistes. Elles s'en allaient seulement le samedi soir, mourant de peur de passer tout de même le dimanche à la maison. Et d'autres ne sont jamais rentrées, ont passé dans la fabrique tout le temps qu'ont duré les grèves. La frayeur n'en était toujours pas la raison véritable. Des gardes mobiles occupaient l'usine pour la garder contre un coup de main, jour et nuit. Et bien des paillasses, la nuit, eurent 2 occupants. Ce soir-là, vers 7 heures, Reine s'était arrêtée 1 minute pour souffler. Elle était hors d'haleine. On avait amené de Menin et d'ailleurs une troupe de Flamands, hommes et femmes, pour leur apprendre rapidement à peigner la laine et remplacer ainsi la main-d'œuvre locale. Ces gens, des êtres frustes, venus de villages perdus dans les Flandres, comprenaient à peine le français et menaient dans l'usine une existence passive de travail. Pour manger et dormir, ils se réunissaient tous ensemble, farouchement isolés des autres, par cette solidarité de mœurs et de langues si forte chez la race flamande. C'étaient pour la plupart de grandes carcasses vigoureuses que l'air des villes n'avait pas anémiées. Les femmes étaient fortes comme leurs hommes. Reine, perdue dans ce monde, parmi ce monde de primitifs aux gestes lourds, aux violences promptes, peinait vainement pour leur apprendre leur métier. Elle en avait peur, d'ailleurs. Les Flamands dans le Nord passent pour colériques et particulièrement méchants. Et de fait, les femmes, sitôt le contremaître partait, rabrouaient Reine et la menaçaient, brandissant leurs grandes mains ouvertes quand la jeune fille voulait les reprendre. Pour les hommes, elle en avait vraiment trop peur. Elle n'osait plus rien leur dire, même quand ils faisaient tout à rebours. Ils avaient une façon de la regarder de leurs yeux bleus vite allumés par la colère qui la glaçait. Ces brutes s'emportent tout à coup, sans que rien avertisse de la rage qui les saisit. Et leur fureur est aveugle. Quand Reine les voyait s'agacer d'une remontrance, la regardait drôlement en grommelant de lents et ragères « Rotfordum !» elle s'en allait tout de suite. Ce que M. Laforge, d'ailleurs, appelait la gangrène, les avait bientôt contaminés. Ils ne faisaient pas la grève, ils étaient venus pour travailler. Mais, dès les premiers jours, ils s'étaient comme tacitement entendus. On en fichait le moins possible, on briscadait l'ouvrage, Reine le voyait bien. Elle courait d'une femme à l'autre, les reprenait, montrait ce qu'il fallait faire, et tout à coup, derrière elle, une grande brute aux cheveux roussâtres, l'orateur de la clique, lui saisissait le bras comme dans une pince. Il parlait un peu le français, celui-là. Il disait « Hé, va pas si vite, hein, c'est des nouvelles, elles ont bien le temps pour apprendre, bradeuse d'ouvrage. » Ou bien les femmes se rebellaient, l'injuriaient en flamand, arrivaient parfois à lui dire avec leur accent bizarre « Moi savoir ouvrir comme toi, moi t'emmerde, sale gueule. » Et c'est pourquoi, à cette heure, Reine se sentait surmenée. Elle ne s'occupait plus de rien. Elle se remit seulement à se promener parmi les métiers, en ayant l'air de surveiller, quand M. Laforge arriva. C'était le maître ici. Donc un extrait de « Quand les sirènes se taisent » de Marc Sandermer.
Et donc, en écoutant ce texte, bien sûr, l'ambiance dans laquelle vivait et travaillait Pierre de Jeter. Travaillait donc dans cette immense usine de Fifkai où il y avait plus de 3000 ouvriers qui travaillaient, donc une véritable ville dans la ville. Pierre de Jeter, eh bien, il poursuit bien sûr sa passion musicale. Il arrive même à obtenir le premier prix de l'Académie. Il avait alors 38 ans. Il devient même en juillet 1888 le directeur de cette société musicale, la Lyre des Travailleurs. Pierre de Jeter, qui fréquente beaucoup son ami donc Gustave Delory, qui est le leader local politique hein, de cette gauche, du Parti ouvrier français en particulier, il va être sollicité par un militant de la région parisienne qui a découvert un poème d'Eugène Potier. Qui va devenir le fameux chant donc international. Alors au départ, c'est un simple poème. Le but est d'en faire l'hymne du Parti ouvrier français au départ. Eugène Potier, tout simplement, c'est un monsieur qui est né en octobre 1816. Il était un petit industriel parisien, mais il avait déjà participé à la révolution de 1848. C'était un révolutionnaire particulièrement actif. Il a participé en particulier au combat de la Commune de Paris. Et d'ailleurs, c'est lors de cette période, en 1871, qu'il va donc écrire ce fameux poème qui va devenir le chant révolutionnaire que l'on connaît tous, hein, au moins en tout cas le refrain, hein, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Cela dit bien sûr des choses à beaucoup d'entre nous. Eh bien, là, pour l'instant, c'est un simple poème. Et donc, Gustave Delory va contacter son ami Pierre de Jeter pour mettre ce poème en chanson. Et c'est ainsi, donc, va naître cette hymne ouvrier, cette hymne qui va devenir l'hymne un petit peu la Marseillaise des travailleurs. Prise par le Parti ouvrier français, mais qui sera rapidement repris par bien d'autres groupes révolutionnaires. Mais bien sûr, malheureusement, les choses ne se passent pas aussi bien, puisque, si ce chant a été joué pour la première fois en juillet 1888, lors de la fête du club musical La Lyre des Travailleurs à Lille, le frère de Pierre de Jeter, tout simplement, va s'approprier l'initiative d'avoir composé la musique. En effet, le texte musical a été signé simplement du don de Jeter, sans préciser le prénom. Évidemment, on comprend le contexte, hein, après avoir écouté le texte que a lu Marie-Jo, la répression était quand même féroce, les patrons n'aimaient pas beaucoup les leaders, et dès qu'ils pouvaient, bien sûr, les isoler, les licencier purement et simplement. Et c'est ainsi que, évidemment, Pierre de Jeter va perdre son travail. Ce chant va devenir donc l'hymne de l'international socialiste. Nous sommes alors en 1889. Et Adolphe, eh bien, lui, va contester bien sûr la paternité de cette chanson à son frère Pierre. Et il va intenter donc par voie juridique un procès pour s'octroyer la paternité donc de ce travail.
Düşede döve ben trünker kafam bebeğlik in de bin. Stotternam bronzem man me haver vitse kelihire. Norma gevül stotem alive lang kalastre nor de kalake. Nor de klank van ziele verblokke. Hoopne god vergeten dag wel twelf kieren. Als ik de namoer van de stambelt van de bronze monument, waar ik een beetje chauvinist, maar wel meer rijde, want het is Rubens, Peter, Paulus, daar ons schilders firmament, signor verkouden, die in Duitsland weer gevouwen, daar de Nederlandse godsdienst moeilijkheden. Het is inderdaad voor de signoren nog altijd een point d'honneur dat ze die schilder in hun stad hebben zien wonen. In pracht en prol en groot vertoon, maar dat was mouden in die taart is lang geleden. Dat ze nog zo'n dinges deden om verdienstelijke burgers te belonen. Alle geld en alle gemene regelt was een echte Vlaamse zang. Een zang van het volk was hem niet als goed geweten. Hij was geboren bij de raken, anders had ze groot alleen niet kunnen rapen. Dat is gemakkelijk te begrijpen, in een land waar dan een schoeier werd vergeten. Over de klauw van een paar jeven klinkt de naam van die artiest. Gelijke sleutel wordt van schepping in aanwezig. En we geroken in vervuring met ons gaven van zo'n meesterlijk tablauken. Dat waar Rubens is ontlauken in die tijd van onverbiddelijk inquisitie. Tussen de dorpen van het Grunkerk of onbewegelijk in de wind staat er een bronze man met over witse kleren. Naar mijn gevoel staat er maar liever lang te luisteren naar de klokken, naar de klank van zilver vlokken. Hoop een goud vergeten dag wel twaalf keren.
Vanessa Level, vous interprétez une chanson signifiant le titre « Au milieu des pigeons dans le cimetière verdoyant ». Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc la vie d'un ouvrier flamand, Pierre de Getter. Or, Pierre de Getter, qui a donc composé la musique de l'International, eh bien, est en conflit avec son frère Adolphe, qui lui conteste la paternité. Et évidemment, ça se passe par les voies juridiques, des procès qui vont durer pendant plus d'une dizaine d'années. Pierre de Getter, lui, malheureusement, a perdu son emploi et malgré ses relations lilloises, eh bien, il préfère quitter la région et s'installer à Saint-Denis, dans la région parisienne. Il a des difficultés, bien sûr, pour retrouver du travail. Il s'installe comme cabaretier. Souvent, c'est le cas pour, malheureusement, les leaders qui se font repérer par la sécurité. Et donc, eh bien, il ne lui reste plus que cette solution. Il poursuit bien sûr son frère Adolphe et ce procès va beaucoup le fatiguer. Un premier jugement d'ailleurs va accorder la paternité à Adolphe, qui est reconnu donc comme auteur de la musique de l'International. Pierre de Getter néanmoins ne baisse pas la garde, il fait appel. Son frère Adolphe, lui, par contre, est resté à Lille et arrive, la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1914. Lille est occupée par les troupes allemandes. Adolphe, lui, va trouver du travail comme brancardier à l'hôpital militaire. Mais il faut savoir que Lille, bien sûr, est tout près du front et que le nombre de blessés afflue et que les troupes, bien sûr, allemandes ont besoin de bras pour faire soigner leurs soldats blessés. Mais Adolphe de Getter supporte mal cette occupation, il déprime et le procès lui aussi finit par le fatiguer, si bien que Adolphe va mettre fin à ses jours en 1916. Et plusieurs temps plus tard, son frère Pierre va recevoir une lettre comme quoi Adolphe reconnaît que ce n'est pas lui l'auteur de l'International, mais que c'est bien son frère Pierre qui en est l'auteur. La justice va reconnaître donc ce droit d'auteur en 1922. Mais néanmoins, Pierre de Getter ne va pas percevoir pour autant des droits d'auteur parce qu'il n'avait pas enregistré déjà d'une part. Il aurait pu vivre chichement quand on connaît le succès de cette chanson internationale. D'ailleurs, il a été reconnu et invité comme invité prestigieux à Moscou. Puisque l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes, invite donc Pierre de Getter à Moscou en 1927. Ils ont décidé d'ailleurs de choisir ce chant comme hymne national. L'État soviétique va même lui octroyer une pension, alors certes pas mirobolante, mais néanmoins une petite pension qui va lui permettre de subvenir à ses besoins. Notre homme a alors 79 ans. Il vit très modestement, il va décéder. Quelques années plus tard, il décède en 1932 dans la grande misère. En définitive, il n'a pas pu bénéficier de ses droits d'auteur qui auraient permis, bien sûr, de vivre une belle vie chiche, un peu comme peut-être nos vedettes d'aujourd'hui. Ses funérailles seront par contre grandioses. Ils seront suivis par plusieurs milliers de personnes. Alors aujourd'hui, le souvenir de Pierre de Getter, la ville de Gand qu'il avait pourtant quittée, sa ville n'est pas rancunière puisqu'elle a dressé une belle statue en mémoire de cet auteur, Pierre de Getter. Lille a consacré à Lille Five le nom d'une place et on a bien sûr, dans la tradition typique de nos Flandres, dressé un géant en mémoire donc de Pierre de Getter et naturellement ce géant il porte le bleu de chauve des ouvriers de Fivecaille. Voilà une vie bien mouvementée d'un simple ouvrier flamand qui a dû quitter sa ville natale pour trouver du travail et vivre dignement. Et donc il fait partie de ces milliers de flamands qui sont venus donner leurs bras et leur vie dans les usines aussi bien wallonnes que de notre région Nord-Pas-de-Calais. L'émission s'achève. Eh bien, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Plus.
Zigzag flaneren we op straat. Twee oude vrienden in de wind en aan de praat. Wat een mens toch mee maakt. Wilde verhalen, zacht gemor en schandalen. We trokken zigzag de wijde wereld in. Ik zag je altijd met een andere. Schoon in. Zij leek de ware, maar je huis werd het hare. En life goes on. De zon schijnt weer op onze hoofden. Want hierboven bleef God Hemzelf door dik en dun in ons geloven. Op straat. Geen mens op aarde weet wat hem te wachten staat. Welke kant het op gaat. Hoogmoed en zonde roddels deden de ronde. In het lang en breed. Maar we lachen. Alimentatie betaalt maar altijd een feest, want we lachen nog steeds.